Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Va-t-on vers un tsunami d'inflation? C'est la phrase choc prononcée hier par Michel-Édouard Leclerc sur BFM TV. Il voit une inflation s'installer à deux chiffres en 2023. Pourtant, Bruno Le Maire a tout récemment parlé d'un retour à une inflation normale en 2024. Alors bien sûr, ne pas confondre l'inflation et le niveau des prix. Si l'inflation se calme, cela ne veut pas dire que l'ensemble des prix tout d'un coup retrouverait les niveaux qu'on connaissait par exemple avant Covid. Le bouclier tarifaire pour les entreprises est-il à la hauteur pour les ETI? Petit focus ETI. Les ETI si souvent oubliés dans les dispositifs publics. On réagira au plan pour l'industrie, le plan de verdissement pour l'industrie présenté par Emmanuel Macron, un plan à 5 milliards, plus 5 milliards potentiels. Et en filigrane de tout ça, il y a, vous le savez, cette action qu'a engagée Bruno Le Maire au niveau européen pour essayer de répondre à la croisade anti-inflation de Joe Biden, incarnée dans cette loi qui a été votée l'été dernier, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est considérée par Bruno Le Maire comme une terrible concurrence déloyale et, osons les mots, même du protectionnisme. Qu'est-ce qui fait que l'emploi résiste en France? 89 400 créations nettes d'emplois au troisième trimestre, nous dit l'INSEE. Bien reconnaître que la dynamique du marché du travail n'est pas exactement en phase avec les perspectives économiques qui nous entourent aujourd'hui. Et on lira bien sûr dans cette émission un mot du plan stratégique de Carrefour qui a été dévoilé hier par Alexandre Bompard, plan d'ici à 2026. Gaëlle Mac, bonjour.
Bonjour.
Directrice déléguée de la rédaction de Challenge. Alors à l'une du Challenge de demain, car nous sommes mercredi.
Spécial États-Unis, donc l'Amérique divisée, on va avoir le résultat des midterms.
On attend les résultats. En tout cas, c'est pas la vague républicaine, visiblement, que l'on pouvait redouter encore dans les commentaires il y a quelques heures. Et je vous rappelle la une du numéro encore disponible en kiosque aujourd'hui. C'est un spécial immobilier intitulé « Le début d'une baisse », notamment avec les nouvelles mesures du ministre du Logement. Mathieu Plane, bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Quand Michel-Édouard Leclerc nous dit « Nous allons vers un tsunami d'inflation, elle va s'installer à deux chiffres en 2023 ». Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'observateur et économiste?
Des inquiétudes, d'une part, en tant que citoyen aussi, mais je pense que Michel-Édouard Leclerc regarde aussi sous le prisme de la distribution et des prix à la consommation alimentaire, qui sont effectivement aujourd'hui élevés. On voit que cet indice des prix à la consommation est déjà supérieur, l'inflation sur l'alimentaire déjà supérieure à 10%, on est à 17% sur les produits frais. Effectivement, on est dans un mécanisme aujourd'hui dans lequel, avec une hausse des prix de l'énergie ou des prix de l'énergie qui restent durablement élevés, ça va être difficile d'atterrir rapidement à une inflation, on va dire, comme on a connu auparavant. Donc, on a quelque chose qui s'installe un peu dans le temps, avec des débuts de second tour, c'est assez logique, c'est-à-dire que quand on a une inflation à ces niveaux-là, les salariés vont pas accepter d'encaisser complètement les pertes de pouvoir d'achat, donc il faut s'attendre à des hausses aussi par ailleurs de salaire, et puis on peut s'attendre aussi progressivement, on va voir, et ça c'est un enjeu fort, et d'ailleurs je pense que c'est un enjeu au sein des différents pays, y compris dans la concurrence et la compétition internationale, c'est les dispositifs budgétaires et d'accompagnement. Vous parliez de ce qu'on peut faire ou pas pour les ETI. On voit que l'Allemagne met 200 milliards. On voit ce que font les États-Unis aujourd'hui face à l'inflation. Donc assez clairement, c'est aussi la sortie des dispositifs d'aide ou pas. En tout cas, pour 2023, on a déjà des choses établies. Mais après, c'est 2024 où la question va être, à mon avis, essentielle. Donc je crois que Michel-Édouard Leclerc averti, il a relativement raison d'alerter là-dessus. Ça dépendra de beaucoup de choses, notamment de ces effets de second tour, des effets de salaire qu'on peut avoir, et puis bien sûr des évolutions géopolitiques et notamment la question de l'énergie, et bien sûr les accompagnements budgétaires, tout ça dans un contexte de remontée des taux. Donc c'est quelque chose de extrêmement délicat et beaucoup, beaucoup d'incertitudes.
En tout cas, lui, il dit clairement que l'inflation est installée, elle n'est pas provisoire, elle ne va pas disparaître, elle ne va pas s'envoler. Même s'il faut admettre qu'on a quand même des signaux d'apaisement sur le transport maritime, oui. On a des signaux d'apaisement sur certaines matières premières aujourd'hui. Oui. Il y a quand même des... Et puis même, à la limite, sur le mégawattheure produit au gaz, qui a quand même considérablement baissé par rapport au sommet qu'on a connu à 340 ou 350 euros au mois d'août dernier. Mais
je pense qu'il faut faire attention des deux côtés, hein, parce que d'un côté, le gouvernement a déjà été pris en flagrant délit de suroptimisme sur l'inflation.
Tout le monde,
voilà, il pensait, en gros, que ça allait plus ou moins s'arrêter déjà au second semestre, là, au second semestre 2022.
Quand Jean Castex avait sorti le bouclier tarifaire, il devait arrêter en juillet,
il parce qu'il n'y
avait pas la guerre en Ukraine.
Il n'y avait pas la guerre en Ukraine.
Ça, un peu là,
voilà. Mais de l'autre côté, il faut quand même voir aussi que Michel-Édouard Leclerc, qui est un très bon lobbyiste, il plaide aussi un peu pour sa paroisse.
Ouais,
on est dans le contexte de la loi Egalim, c'est-à-dire de négociations avec les industriels. Lui, il se plaint de cette loi en disant qu'elle lie un peu les mains des distributeurs, qu'ils ne peuvent pas écraser comme ils veulent les fournisseurs. Lui, il promeut beaucoup de marques de distributeurs, donc il a des négociations avec des PME agricoles, etc. Donc lui aussi, c'est quand même aussi un plaidoyer pro-domo en partie. Hein.
C'est vrai. D'ailleurs, je ne sais plus comment s'appelle le patron d'Intermarché, mais il a indiqué que dans les négociations qui sont des foires d'empoigne tous les ans, mais là, cette année, c'est franchement...
Ça va être méchant.
Ça va être méchant.
Sanglant.
Et lui, il met en cause les industriels, hein, les grandes marques qui, visiblement, ont des attentes de hausse de prix qu'il a qualifiées d'inacceptables ou de scandaleuses.
Oui, d'ailleurs. C'est également ce que dit Michel-Édouard Leclerc. On est un peu dans le jeu, là. On rentre un peu dans le jeu.
Il y a l'idée de faire un peu de pression au moment où ces négociations...
C'est une façon de dire qu'il n'est pas non plus responsable de l'inflation et que lui aimerait pouvoir avoir les mêmes... plus libre,
bien sûr.
Plus libre pour lutter contre
cette
inflation.
C'est une sorte de pression.
Enfin, sans de mettre pression sur les producteurs.
Voilà.
Mais juste peut-être pour cette question d'inflation et le côté peut-être plus structurel de l'inflation, il y a bien sûr ces effets de second tour, même si on n'a pas des mécanismes d'indexation comme dans les années 70. Hein, donc je ne pense pas qu'on est dans la spirale inflationniste des années 70, mais quand même, on aura une partie qui va être autonome de cette inflation, parce que voilà, une fois de plus, les salaires ne peuvent pas encaisser pleinement.
Oui, non, mais c'est une vérité, cette
donc
inflation,
ça,
et elle
ça,
va être importante.
C'est le point. Et le deuxième point, c'est le coût de la transition énergétique, quand même. Hein. Je pense qu'il y a quand même cet effet-là, c'est-à-dire que forcément, on a des objectifs avec la stratégie nationale bas carbone, hein, de venir à la neutralité carbone en 2050. C'est des investissements très lourds. Ça nécessite de décarboner, on en parlera, l'industrie. Ça nécessite éventuellement de taxer plus qui pollue le plus. C'est aussi peut-être les taxes carbone aux frontières. Tout ça va de toute façon vers une augmentation des coûts de production et de l'inflation et des prix. La mondialisation avait pesé de toute façon en tout cas la baisse, même plutôt vers la déflation que sur l'inflation. Aujourd'hui, on revient sur un scénario qui est beaucoup plus inflationniste à moyen terme.
Mais d'ailleurs, plus personne n'ose vraiment parler de croissance verte, de transition heureuse vers un monde plus... tout ce qui est circuit court,
c'est nécessaire,
bio,
mais ce sera douloureux.
Voilà, ce sera le vert, c'est cher. Dieu sait si on l'a exprimé ici. D'ailleurs, c'est la phrase de Christian Gaulier que j'ai trouvé assez bien sentie. Il est le directeur de l'école d'économie de Toulouse. C'est l'un des plus grands spécialistes de cette transition écologique et des éléments, notamment de fiscalité du carbone, qui doivent accompagner cette transition. Il réagissait à ces gens qui ont organisé une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Il dit là, c'est un peu antagoniste. Hein. Si on veut une vie pas chère, eh bien, il faut bien voir que l'action climatique, si elle existe à ce moment-là, elle a un coût, et un coût très élevé. Avant justement d'évoquer ce qui s'est passé autour de l'industrie, j'aimerais avoir votre lecture de la dynamique du marché de l'emploi. Hier, on a des chiffres de l'APEC incroyables, des niveaux d'embauche de cadres absolument somptueux, avec des perspectives également tout à fait réjouissante pour l'emploi des cadres. On a eu là les créations nettes au troisième trimestre de l'INSEE. On est à 89 400 créations nettes d'emploi. Ça devient presque une énigme d'économiste. Dans le monde dans lequel on vit, avec tous les signaux noirs qui s'accumulent sur les perspectives 2023, on a des créations d'emplois qui ne faiblissent pas.
Oui, alors c'est vraiment une énigme. Hein, vous l'avez
c'est
bien.
Vraiment une énigme.
Vraiment une énigme. Et cette énigme, elle s'amplifie de trimestre en trimestre. C'est-à-dire que, effectivement, si vous prenez les modèles macroéconomiques, on fait des prévisions, on utilise des cycles de productivité, on prend un certain nombre d'éléments, on a clairement une déconnexion entre les évolutions d'activité et les créations d'emplois. Ce qu'on n'a jamais observé comme ça par le passé. On peut avoir ça transitoirement, mais là, ça fait 2 ans et demi que ça dure. Et si vous regardez les chiffres, ils sont quand même assez intéressants et assez parlants. depuis la fin 2019, donc pré-Covid, hein, juste avant la crise Covid, jusqu'à aujourd'hui, donc on a presque 3 ans maintenant, hein, on a créé en net plus de 850 000 emplois, ce qui est assez fabuleux. Ça veut dire que c'est une hausse de l'emploi... Depuis fin 2019.
Oui, donc en fait, c'était une période courte, c'est sur une période...
Une période assez courte, sachant que le premier semestre, on a détruit à peu près 500 000 emplois, donc on a créé plus d'un million d'emplois en 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça fait 5% d'emplois en plus, ce qui est important, hein, 5% d'emplois en plus dans l'économie, mais ce qui est intéressant, c'est de le regarder face à l'activité réalisée. Et si vous regardez la valeur ajoutée qui a été créée sur le même espace, dans le secteur privé, c'est 1%. Donc on a augmenté l'activité de 1%, globalement, et l'emploi a augmenté de 5%. Donc la déduction, elle est simple, c'est que vous avez des pertes de productivité qui sont massives.
Or, en fait, quand on crée beaucoup d'emplois, le côté mauvais signe, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas de gain de productivité. C'est
alors, ou alors il y a beaucoup de croissance.
Ou alors il y a beaucoup.
Le problème, c'est que là, vous n'avez plus de croissance, mais vous avez quand même des créations d'emplois. Il faut voir que, historiquement, ce qui fait que les salaires augmentent, que les niveaux de vie augmentent, c'est les gains de productivité à long terme. Hein. C'est des gains, en France, autour de 1%. C'est-à-dire que normalement, on augmente de 1%. Là, on n'a pas augmenté de 1% par an, on a perdu 4% sur 2 ans et demi. Donc se pose cette question-là, c'est très bien pour le marché du travail, parce que finalement, on a un marché du travail très dynamique et c'est plutôt favorable. C'est surprenant de la part des entreprises, parce qu'on voit que le contexte macroéconomique n'est pas très porteur. Elles continuent à investir et à créer des emplois, ce qui n'est pas du tout la vision aujourd'hui des ménages, qui sont très pessimistes sur l'avenir. Finalement, ça veut dire que les entreprises ne sont pas si pessimistes sur l'avenir. Par contre, ça pose la question de cette productivité et donc de la rentabilité même des entreprises et de l'efficacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour créer la même chose, on a besoin de plus d'emplois, ce qui est même qui va à l'encontre des évolutions historiques. Et donc, il y a deux choses. C'est soit les entreprises vont chercher à récupérer ces gains de productivité parce que elles vont être face à des problèmes de rentabilité et que cette rentabilité est artificiellement entretenue par des aides, etc. Et donc là, ça ne va pas être très positif pour l'emploi. Soit on a un choc structurel sur l'économie et on a des pertes de productivité. Ça pose un problème à long terme sur la croissance potentielle, donc sur le financement du modèle social, etc. Donc, c'est à la fois une bonne nouvelle, mais si on regarde un peu tout ça, on scrute un peu tout ça, il y a quand même malheureusement le revers de la médaille qui est moins beau.
C'est le côté un peu cynique de l'économie quand on la regarde dans sa complexité. C'est qu'annoncer qu'on a des créations nettes d'emplois tout à fait exceptionnelles par rapport à ce qu'on pourrait, ce qu'on serait en droit d'imaginer, c'est quelquefois pour de mauvaises raisons. Et en l'occurrence, effectivement, c'est cette fameuse histoire d'absence de gains de productivité qui, on peut le dire honnêtement, Mathieu, est aussi une énigme d'économiste aujourd'hui. Personne ne sait vraiment expliquer pourquoi les Américains sont en panne de productivité à ce moment-là. On se disait que la transition numérique allait être quelque chose d'absolument phénoménal. Finalement, la réalité, c'est pas celle-là.
Et là, on est au-delà. C'est-à-dire qu'on avait effectivement le fameux débat sur la stagnation séculaire, les ralentissements de gains de productivité, une forme de japonisation de l'économie. Mais là, on n'est plus sur le ralentissement des gains de productivité, on est sur une baisse de la productivité, ce qui est quand même très nouveau. C'est-à-dire que les ralentissements de gains de productivité, on les observe depuis, on va dire, le tournant des années 2000, assez clairement. Mais là, on a un choc sur le niveau de productivité, c'est encore autre chose, ça va un cran plus loin. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal dans le monde actuel.
C'est quand même un sujet, la notion de gain de productivité, qui n'est jamais évoquée dans le débat d'opinion au sens général sur l'ensemble des médias. C'est une notion en fait qui échappe à la compréhension de l'économie pour beaucoup beaucoup de gens, alors qu'elle est absolument centrale. Gaël Mac.
Mais sur le plan du quotidien. Cette histoire de baisse de productivité, elle n'est pas forcément non plus mauvaise pour les employés. Elle vient en partie du fait qu'il y avait quand même des pénuries dans certains emplois qui étaient très mal rémunérés, avec des horaires décalés, je pense à l'hôtellerie-restauration, etc. notamment. Bon, ben, on entend dans ces entreprises-là que finalement, elles se sont décidées à embaucher des gens en plus parce que pour pallier ces problèmes, pour avoir un peu plus de main-d'œuvre, de sorte à ce que la main-d'œuvre qui y est soit un peu moins pressurisée. Bon. Et il faut aussi considérer que les entreprises étaient quand même parvenues à un certain pic de marge. Elles avaient vraiment d'assez bonnes marges, notamment parce qu'elles ont été très aidées pendant le Covid et également parce que sur la durée, je pense que Mathieu Plen l'avait calculé, quand même la baisse de pression fiscale, elle a plutôt concerné les entreprises ces dernières années. Donc bon, s'il y a une petite baisse de marge, c'est pas non plus encore très préoccupant. à condition que cette baisse de productivité soit un peu mondiale et ne soit pas, que ça se passe plutôt dans les services que dans l'industrie qui est peut-être très concurrencée.
Mais ça, ça tendrait aussi à confirmer que ce virage de la politique de l'offre qui a commencé sous François Hollande était un choix vertueux, puisqu'effectivement, enfin, on constate, même si on ne peut pas cibler chaque euro libéré par la fiscalité du capital, par exemple, pour savoir s'il a permis de l'investissement, de la création d'emplois, il y a quand même des résultats positifs en matière de tissu productif en France depuis qu'on a pris 2-3 bonnes décisions de politique de l'offre.
La politique de l'offre, elle est censée augmenter la productivité à long terme, hein, pas la baisser. Hein.
Ah, mais je suis d'accord. Mais moi,
Normalement, c'est favoriser l'innovation, la rentabilité,
oui, bien
etc.
Sûr.
Là, on a le phénomène inverse. Moi, je pense que, alors, il y a plusieurs éléments, hein, qui peuvent expliquer aussi cette baisse de productivité. C'est qu'on a un choc très particulier avec des chocs sectoriels, hein. D'ailleurs, on voit que, par exemple, on a beaucoup de créations d'emplois dans des secteurs qui ont été extrêmement frappés par la crise. Le BTP, la restauration, même les activités liées aux loisirs, au spectacle. On peut penser qu'elles ont été quand même, c'est des secteurs qui ont été beaucoup aidés pendant la crise. Et que du coup, effectivement, il y a eu des embauches qui sont créées qui n'auraient pas eu forcément lieu sinon. Il y a bien sûr l'apprentissage aussi. Hein,
c'est un élément important.
Vous
oui.
allez créer des emplois qui ont un coût qui est quasiment nul.
Donc forcément, la première année avec les subventions publiques.
Donc ça joue. Après, il y a d'autres effets qui sont un peu difficiles à prendre en compte. Mais on peut imaginer que dans certains secteurs, il y a une partie du travail qui était non déclarée qui est plus déclarée aujourd'hui. Notamment par exemple dans la restauration, pour bénéficier de certains dispositifs. Il y a l'histoire des travailleurs détachés. Donc il y a, on voit qu'on a moins de travailleurs détachés. Donc c'est vrai que si vous voulez être dans le BTP et vous voulez continuer à avoir de l'activité, bah, vous allez embaucher ce qu'on appelle les travailleurs domestiques, c'est-à-dire ceux qui résident dans le pays. Donc tout ça peut jouer sur les niveaux de productivité, mais c'est pas suffisant pour comprendre juste ce qui se passe. Donc ça va vraiment un cran au-delà. Et j'allais dire, tant mieux. Tant mieux pour le moment, hein, cette résistance du marché du travail elle est quand même plutôt intéressante et c'est quand même, on revient à un niveau de chômage qui est relativement bas par rapport à ce qu'on a connu. La question c'est comment tout ça va évoluer pour être investi à l'avenir. Et donc c'est vrai que quand on fait de la prévision, la question c'est est-ce qu'on continue à créer beaucoup d'emplois avec aussi peu de croissance, quoi.
En tout cas, c'était une vraie surprise, je crois, pour l'INSEE qui prévoyait plus 59 000 postes. Bon, finalement, c'est plus 89 000. Donc, ça continue d'être une énigme à chaque trimestre, quand même, en partie pour les économistes.
Surtout, ce qui est quand même assez intéressant, c'est en général, quand on est face à des tensions et des difficultés de recrutement, ce que cherchent à faire les entreprises, c'est à être plus productives en général. Quand vous avez du mal à recruter, vous jouez sur les capacités que vous avez en interne. Notamment en réorganisant, en jouant sur un certain nombre d'éléments qui font que vous allez plutôt pousser à la hausse la productivité, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que les entreprises disent qu'elles ont eu des difficultés de recrutement comme jamais, et en même temps, elles n'ont jamais créé autant d'emplois. Donc on voit que ce n'est pas un frein finalement aux créations d'emplois aujourd'hui, ces difficultés de recrutement. On pourrait imaginer que ça allait accélérer la productivité plutôt que continuer à créer.
Ça dépend peut-être un peu des secteurs. Je pense qu'il y a des secteurs où c'est plus facile de faire des investissements de productivité que d'autres, quoi. L'hôtellerie-restauration, c'est peut-être
moins. Et vous pouvez jouer sur les heures supplémentaires. Enfin, il y a aussi d'autres éléments à plus court terme. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant.
Nathalie Janson, qui participe à cette émission régulièrement, vous le savez, m'écrit souvent d'ailleurs sur Twitter. Elle écrit « La baisse de la productivité est une illustration aussi de la zombification de l'économie, puisqu'on a maintenu, vous le savez, des entreprises qui, dans un monde normal, sans subvention, auraient très probablement disparu.
Mais les faillites recommencent quand même. Hein, donc
Elles sont revenues au niveau à peu près de 2019. Hein,
mais
on va sortir de tous ces dispositifs d'aide, notamment avec le niveau des aides d'un certain nombre d'entreprises et de secteurs, ce problème de productivité va apparaître quand même comme quelque chose de problématique.
On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On va évoquer cette convocation du président de la République qui a convoqué les 50 sites industriels considérés comme les plus polluants pour annoncer un accompagnement public à hauteur de 5 milliards d'euros auquel pourrait s'ajouter 5 milliards d'euros. Mais il y a un côté donnant-donnant. Alors j'ai posé la question dans ces termes-là. Est-ce qu'il n'y a pas la volonté de faire de l'industrie une sorte de bouc émissaire du réchauffement climatique, finalement, en liant de la subvention et des programmes d'accompagnement à des engagements de décarbonation. A tout de suite, et puis ça ira évidemment avec l'histoire de Bruno Le Maire qui est parti en croisade contre ce sursaut protectionniste insufflé par Joe Biden aux États-Unis.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Gaëlle Mac, directrice déléguée de la rédaction de Challenge. À la une du Challenge, encore disponible aujourd'hui, un spécial immobilier, le début d'une baisse. Profiter des nouveaux prix, vendre mieux, se financer à bon taux, les nouvelles mesures du ministre du Logement. Et demain, donc, la nouvelle couverture de Challenge qui sera consacrée aux États-Unis au terme de ces fameuses élections de midterms. Sylvain Rémy, bonjour, bienvenue.
Bonjour Nicolas.
Président d'Orientis, l'été Kousmi et Mathieu Plane avec nous, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Je vous ai attendu, Sylvain, pour évoquer le sujet de Carrefour, car le sujet vous intéresse. On a déjà réagi à la formule de Michel-Édouard Leclerc, qui a parlé d'un tsunami d'inflation pour 2023 en début d'émission. Gaëlle Mac, le plan, je ne sais pas comment l'appeler, industrie vertière. Donc on convoque des sites industriels considérés comme les plus polluants, qu'on montre un peu du doigt quand même, pour leur dire « mais l'État est à vos côtés, et si vous vous comportez bien, bien vous allez pouvoir profiter d'un accompagnement à hauteur de 5 milliards d'euros, qui peuvent devenir 10 milliards d'euros au total à terme ». Et j'ai posé la question comme ça dans le programme que je vous ai envoyé par SMS à 7h45, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'industrie le bouc émissaire du réchauffement climatique ?
Alors, en tout cas, dans la communication de l'Élysée, elle était probablement assez maladroite sur ce point. Dire nous allons convoquer les patrons des 50 sites les plus polluants de France, on va vous envoyer la liste de ces 50 sites, et puis cette discussion est ouverte à la presse, enfin, voyez, ce sont eux. Bon, c'est pas faux hein, sur le fond. Je veux dire, ces 50 sites représentent en gros 10% du total des émissions de gaz à effet de serre en France.
Quand on fait de la chimie, on sait
mais
que
c'est
quand
une
on...
évidence. Voilà, bon, voilà. Je veux dire, quand on fait de la sidérurgie, de la verrerie, de la cimenterie, etc., par essence, comme
aussi.
Métier, on est un métier polluant. Et il faut quand même aussi reconnaître que ces industries, ce sont celles qui ont fait le plus d'efforts. La baisse des gaz à effet de serre en France, elle vient principalement des efforts qui ont été faits par l'industrie par rapport à bien d'autres secteurs, notamment les bâtiments, la rénovation énergétique des bâtiments ou les transports. L'industrie, elle a fait son boulot et elle continue de le faire. Le site, je crois, le plus polluant de France, c'est à Dunkerque, le haut fourneau de ArcelorMittal, la sidérurgie ArcelorMittal. Ils sont en train de faire de Dunkerque une sorte de laboratoire vert. Ils vont faire un four à hydrogène à la place du charbon, hein, puis des fours électriques. Ils ont même une unité de capture de carbone qui est pilote hein, pour l'instant à la sortie de leur cheminée pour essayer de regarder l'ensemble du cycle. Donc, il y a des efforts qui se portent en milliards. Et sur ce point, d'ailleurs, je veux dire, Emmanuel Macron met les milliards. Hein. Il les met, je veux dire, 5 milliards, c'était pas mal. 10 milliards, ça serait encore
énormes.
Mieux.
Ce sont des montants énormes, il voilà. faut le rappeler quand même.
Et puis, il y a aussi 9 milliards en plus pour la filière hydrogène, le plan hydrogène, qui concerne quand même un certain nombre de ces industries énergivores. Globalement, on peut considérer que la France met les milliards sur la table avec l'aide de l'Europe, mais... Enfin, d'une manière significative, mais c'était plus dans la communication.
Je vois ce que vous voulez dire.
Voilà. Alors que Bruno Le Maire nous parle depuis quand même maintenant plusieurs années de souveraineté industrielle, retour de l'industrie, l'importance de l'industrie. Il y a eu une prise de conscience en France quand même. Hein. On a changé un peu de discours sur l'industrie. Et là, on en revient à ce discours antérieur sur l'industrie, c'est sale.
Ben oui, mais voilà. Il y a un moment, si on veut plus d'industrie sur le sol français, de tout type d'industrie, il faut accepter la pollution qui va avec aussi. C'est toujours le même sujet. Comment vous avez reçu Mathieu Plane ? Sur les montants, bien sûr, ils sont importants, mais il y avait effectivement un côté mauvaise, méchante industrie pointée du doigt au moment où on cherche justement à la relancer, à avoir plus d'usines sur notre territoire.
Il suffit juste d'avoir un wording différent.
C'est paradoxal. Parce que c'est vrai que les industriels, il faut qu'ils fassent des efforts, mais ils en ont déjà fait en réalité. On ne prend peut-être pas assez les efforts passés, même si il va falloir bien sûr qu'ils continuent. Il y a deux choses hein, là-dessus. C'est que, clairement, ça, la décarbonation de l'industrie, c'est un enjeu extrêmement important. Mais aussi, l'autre enjeu, c'est de garder notre industrie.
Et oui.
Si on veut la décarboner, il faut qu'elle reste sur place. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est qu'on est en concurrence mondiale avec des places où l'énergie est beaucoup moins coûteuse, notamment aux États-Unis ou en Asie. Je crois que c'était, vous avez reçu le PDG de Safran qui disait,
c'est bien possible,
pas vous hein, mais
non,
chez
non,
BFM
non,
Business
mais probablement, oui.
Qui disait que lui il devait ouvrir une unité sur les freins carbone. Les freins carbone, c'est 40% de la production, c'est de l'énergie, donc oui. Il y a 40% dans les coûts de production qui est l'énergie, donc c'est très énergivore.
Et pour l'instant le projet est gelé hein.
Le projet est gelé parce que l'énergie coûte cher. Donc c'est vrai que dans un monde de transition énergétique, il va falloir décarboner notre industrie, mais aussi garder notre industrie, la localiser et la décarboner. Parce que si c'est pour importer des produits industriels fabriqués ailleurs qui polluent beaucoup, on n'aura pas réglé le problème. Aujourd'hui, quand vous regardez l'empreinte carbone, nos émissions de gaz à effet de serre diminuent sur le territoire. Par contre, elles augmentent par les importations.
Oui.
Donc, il y a un enjeu stratégique, c'est-à-dire aussi de garder notre industrie et la décarboner. Et pas forcément juste de les pointer comme des pollueurs. Parce que si ces pollueurs-là vont ailleurs pour polluer encore plus, on ne va pas régler le problème
d'autant
climatique.
Que...
Et en plus, on va désindustrialiser la France, ce qui serait un problème.
D'autant que certains redoutent qu'à l'avenir, on assiste à des délocalisations énergétiques.
Bien sûr.
Des entreprises
bien
qui
sûr.
Ça commence
à être...
Voilà. Et... En Allemagne, ça
oui, oui.
a commencé.
Et pourquoi les... Et d'ailleurs, l'Allemagne a mis 200 milliards.
Mais oui.
Elle a mis 200 milliards. Vous avez vu le message de BASF quand même.
Oui, oui.
BASF qui dit qu'il réduit de manière... définitive son activité. Et bien, cette activité, elle va probablement quand même exister ailleurs. Donc...
Et non seulement les États-Unis ont eu un prix de l'énergie beaucoup plus faible en ce moment, la Chine également, mais en plus, il y a ce plan massif d'aide de la part de Joe Biden, 370 milliards de dollars, donc ça va vraiment... qui est protectionniste, mais de manière flagrante. Je veux dire, on dit, on va vous donner un bonus pour acheter une voiture électrique, 7 500 $. Le bonus en France, c'est 3 000 euros. Hein,
La batterie est fabriquée.
Il faudra
bonus,
que ce soit une voiture américaine avec une batterie américaine 100% américaine.
Réalisée par des ouvriers syndiqués.
Voilà. Ouais. Donc,
sachant qu'il n'y a que les constructeurs américains qui sont dans le Nord où il y a des syndicats.
Bon, je ne sais pas ce que dit l'Organisation mondiale du commerce, mais voilà, là, on est vraiment dans un cas archétypique.
Et quand l'Allemagne met. Alors, et l'Allemagne, moi, cette discussion est importante, mais quand l'Allemagne met 200 milliards aussi dans son plan. Pour préserver son tissu productif et son industrie, effectivement, c'est pas du protectionnisme, mais ça a posé la question de la réponse des autres pays à une telle mesure. C'est-à-dire, est-ce que les autres pays peuvent s'aligner? Parce que c'est une forme de subvention.
Bien sûr.
De toute façon.
Bah est-ce là, que... c'est une course aux subventions.
Mais on voit que les intérêts nationaux reviennent très vite face à ces crises-là et que chacun essaie de préserver ce qu'il a, en tout cas, dans son économie, et notamment c'est ce qui permet d'être performant, quoi.
C'est toute la croisade là de Bruno Le Maire, mais il est bien seul dans cette croisade contre la loi qui a été votée l'été dernier aux États-Unis. Carrefour, Sylvain Rémy, Carrefour. On a posé la question de manière un peu provocatrice sur le business matin. On s'est dit, il y a le plan qui a été dévoilé à horizon 2026 avec des valeurs mises en avant, des valeurs climatiques, de décarbonation, le mieux manger, moins salé, moins sucré. Derrière, il y a clairement une guerre des prix, il y a une guerre des coûts aussi, 4 milliards d'économies espérées d'ici à 2026 par Alexandre Bompard. On s'est demandé ce qu'ils faisaient, Carrefour. Est-ce qu'ils font du Leclerc? Est-ce qu'ils font du Lidl? Est-ce que finalement, c'est une incarnation industrielle de la fameuse abondance? Comment vous regardez ce qui a été annoncé hier?
Moi, je pense que Carrefour fait du Carrefour.
Ah, ben oui.
C'est-à-dire qu'ils sont seuls face aux autres et ils jouent leurs cartes. Et leurs cartes, ces cartes, Bompard les a abattues il y a longtemps, depuis bientôt 5 ans qu'il est là.
2017,
oui. Oui, il a enclenché une grosse refondation de Carrefour, un gros effort sur le digital depuis des années. Et je pense qu'aujourd'hui, Carrefour n'est pas Lidl, n'est pas Leclerc, ne fait pas du Lidl, ne fait pas du Leclerc, mais il fait aussi du Amazon, il fait aussi du métro, parce que ce qu'il prépare...
Ah, c'est... Oui.
Et donc Costco, il est Carrefour, c'est-à-dire pareil, qu'il a une politique qui lui est propre, de jouer sur tous les niveaux, évidemment les prix. Mais comme le disait Bompard tout à l'heure, les prix, c'est le truc de tous les jours. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est d'ajouter des choses pour aller concurrencer. Moi, je dirais qu'ils vont plutôt concurrencer Amazon, parce que la stratégie qu'ils ont avec Publicis aujourd'hui, de
c'est partie des éléments du plan
Retail, Retail Media,
oui.
Qui consiste à monétiser tous les espaces publicitaires sur les sites des e-commerçants. Alors, les sites Carrefour, évidemment, mais ils veulent essayer d'adjoindre d'autres concurrents ou intervenants sur le domaine. La monétisation de ces publicités, la monétisation de la data, donc des données clients, des comportements de clients, c'est des choses qui sont très importantes, qui valent beaucoup d'argent, sur lesquelles Amazon est extrêmement fort aujourd'hui. Et je pense que c'est vers Amazon qu'il faut se tourner pour essayer de trouver les modèles qui gagnent de l'argent. Donc je crois que effectivement ils font un peu de Lidl, effectivement ils font un peu de Leclerc, mais ils font beaucoup d'Amazon, mais ils font beaucoup de métro. Et donc c'est ce que j'appelle faire du Carrefour, c'est-à-dire être innovant, parce que c'est à ça qu'on reconnaît la politique de Carrefour depuis quelques années. Ils sont innovants et ils essayent d'apporter des nouvelles choses. Ils ont racheté beaucoup de start-up dans la tech. dans l'environnement Carrefour, il y a beaucoup de start-up, et toute la transformation digitale a été très puissante. Et je pense que c'est pas pour faire du Lidl qu'on fait la transformation digitale, mais c'est plutôt pour aller sur les pas d'Amazon.
Un Carrefour fait du Carrefour, c'est un peu comme ça qu'ils ont essayé de vendre l'histoire, justement, pour qu'on... Ils ont dit surtout, ne cherchez pas une espèce de volonté de ressembler à nos concurrents français. Carrefour vous inspire une réaction? Oui, Gaël Mac.
J'aime bien en tout cas
la lecture de Sylvain, effectivement.
Moi, je suis pas complètement d'accord, parce que si je prends l'évolution de mon Carrefour... dans lequel je vais toutes les semaines en tant que ménagère de 50 ans, je dirais qu'il y a quand même un virage qui est très net. Donc moi, j'habite dans une ville un peu populaire, hein, Pantin, donc en Seine-Saint-Denis, et il y a peut-être 7-8 ans, j'ai vu mon Carrefour avec un bar à sushis devant, avec des gens qui fabriquaient des sushis en permanence. Ensuite, on a monté des distributeurs en vrac, là, voilà. Mmh. On a créé tout un rayon bio qui occupait peut-être un quart, un cinquième du magasin, etc. Donc, mon Carrefour, il avait quand même pas mal changé. Et là, il a rechangé. Ce bar à sushis, il n'existe plus. Donc, il a été supprimé. Il n'y a plus même de sushis en vente, même, voilà. Les vracs, ils ont été enlevés. Tous les distributeurs en vrac. Le rayon bio, il a été réintégré dans l'ensemble du magasin. Il y a des produits bio dans chaque rayon, mais il n'y a plus un énorme rayon bio. Et je ne vois plus ce slogan partout, qui à un moment était mieux manger, ou je sais plus ce que c'était, manger mieux demain, ou etc. Donc, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un changement. D'ailleurs, Alexandre Bompard, il a annoncé qu'il allait passer ses marques de distributeurs à 40% contre 25%. Bon, bah, ça, Lidl, c'est quand même ça, hein, 90%. Par ailleurs, il est en train de franchiser ses hypermarchés.
Ça fait longtemps, hein. C'est là d'ailleurs, là, des éléments du rebond des résultats,
voilà,
du rebond financier.
Et de développer le secteur proximité où c'est en location gérante, ça, c'est du Leclerc, hein. Je veux dire, l'hypermarché franchisé, coopératif, c'est du Leclerc. Donc, oui, Carrefour fait du Carrefour, parce qu'ils sont leaders, ils sont gros, et donc ils font pas que ça. Ils font effectivement aussi du développement dans le numérique. Ils ont aussi leur enseigne brésilienne, métro brésilien, qu'ils veulent mettre en place en France.
Atacadão.
Voilà. Mais enfin, quand même, je trouve qu'ils ont fait un virage, clairement. Ils avaient une sorte de montée en gamme, et là, maintenant, je sens une descente en gamme.
Oui, Atacadão, le premier magasin sera à l'automne 2023 en Ile-de-France. Sous cette marque-là, hein.
Je reviens sur ce que dit Gaël à l'instant, parce que l'histoire du rayon bio, il n'existe plus dans aucun magasin aujourd'hui. Le bio est devenu un produit normal, donc il a été réintégré dans les rayons.
Il était intégré au début.
Mais c'est pas que chez Carrefour.
Désintégré, réintégré.
Tout le monde avait fait la même chose aujourd'hui. C'est pour ça que les chaînes bio souffrent, parce que elles n'ont que du bio, et donc les multi-commerçants mettent le bio dans le rayon aujourd'hui. La deuxième chose, les produits de MDD, c'est pas du tout du Leclerc. 1976, c'est les produits libres, c'est Carrefour qui crée les
non,
MDD.
Non, c'est pas du Leclerc, c'est du Lidl.
Les MDD, ça a été créé par Carrefour, hein, je rappelle.
C'est quoi les MDD?
Les marques de distributeurs.
C'était les produits libres, ça a été créé par Carrefour.
C'est Carrefour qui a créé les MDD.
Absolument.
Oui, mais ils veulent quand même passer de 25
cas,
à 40%.
Bien
là,
sûr, mais c'est normal.
Quelques années.
C'est aussi logique en termes de marge. Ils contrôlent beaucoup mieux. Des produits qu'on fait fabriquer pour eux, et donc ils vont mettre en avant. Mais enfin, c'est le cas de tous les distributeurs. C'est pas là-dessus qu'ils font la différence. C'est pas sur les produits bio qu'ils font la différence. C'est pas. Alors, le vrac, c'est vrai, ça revient, mais beaucoup plus dans des hypermarchés, parce qu'il faut de la place pour faire du vrac. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Nous-mêmes, dans le thé, on commence à mettre du vrac.
Ah oui.
Absolument. Bon, bah, le thé en vrac, c'est vieux comme le monde.
C'est vieux comme le monde.
Là, pour le coup.
Mais maintenant, on commence à l'installer dans la distribution, bien sûr. Mais le vrac, c'est quelque chose d'important pour des raisons écologiques et pour des raisons d'économie. Donc le vrac est toujours là. Mais c'est pas là-dessus qu'ils font la différence. La différence, elle se fait sur tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le digital, les choses qui ne se voient pas forcément quand vous êtes consommateur derrière votre caddie dans un magasin. La différence, elle se fait vraiment là.
Je suis d'accord sur le digital, mais il y a un élément où je trouve que Gaël a totalement raison, c'est quand on prend le plan d'hier, effectivement, on veut aller vers 40% de marque du distributeur, et même à terme qu'un produit sur deux vendu soit un produit Carrefour. Mais en même temps, le plan annonce qu'il y aura un différencement de 20% dans l'alimentaire, de 40% dans le non-alimentaire.
Et
on
ils
voit
ont
bien
dit...
quand même que l'offre a
tendance à se contracter.
Et qu'ils allaient présenter à la palette, que les rayons seraient plus austères. Enfin, il y a eu quand même
Mais je comprends parfaitement. Mais encore une fois, il n'est pas interdit de copier un concurrent qui a fait quelque chose.
Bien sûr, non, mais je ne dis pas que c'est interdit.
Je dis simplement qu'ils ne sont pas 100% Lidl ou 100% Leclerc, qui sont
X%
de chaque bonne idée, et qu'il y a beaucoup de bonnes idées qui viennent de chez eux. Mais ça n'enlève rien aux autres distributeurs qui font des efforts de leur côté, comme Leclerc ou comme d'autres, et qui sont capables d'inventer le commerce de demain. C'est ça l'enjeu.
Après, oui, c'est pas juste un mot, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée que c'est un peu la fin de l'abondance quand même, hein, cette affaire. C'est-à-dire l'abondance cas qualitative. Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on est arrêté de... On est plutôt sur une réponse aux enjeux actuels qui sont le pouvoir d'achat, l'inflation. Alors, ils parlent aussi de la transition énergétique. Hein, je crois qu'ils ont pris des engagements climatiques.
Par rapport aux fournisseurs.
Et on voit bien qu'on était plutôt sur des montées en gamme, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la question, elle est plutôt de s'attaquer au problème de l'inflation et au pouvoir d'achat, quitte à
revenir. Ils annoncent presque officiellement qu'ils vont quand même réduire le bio. Ils vont changer pour des labels qui sont moins exigeants et surtout moins chers.
Et bouclier anti-crise, hein, c'est
l'exemple. Attention, là, l'équivalent du métro, là, c'est quoi? C'est un.
Oui.
On dit Cash and Carry, non?
Oui, Cash and Carry.
Voilà. Cash and Carry, c'est des. Voilà, enfin, on est vraiment sur des.
Ah, mais t'achètes ton riz par paquet de 5 kilos,
c'est pas du tout ce qu'on avait l'habitude de voir, quoi.
Ouais. Il paraît qu'on peut même venir, un professionnel peut même prendre la palette directement. Un ménage sera moins courant, j'imagine. C'est intéressant. C'est intéressant ce qui se passe avec Carrefour. Il y a quand même un enjeu derrière, c'est que Alexandre Bompard, il arrive à 17,50 l'action. Il a quand même considérablement redressé les résultats. La trésorerie, elle dépasse le milliard alors qu'elle se comptait en centaines de millions quand il arrive. Eh ben, le titre, il vaut moins de 17 euros.
Rien,
voilà.
Ouais.
Il y a quand même une vraie volonté de retrouver une dynamique de marché parce que pour l'instant, Carrefour n'est pas une action forcément à la hauteur.
Est-ce que le domaine de la grande distribution est un domaine qui attire les investisseurs aujourd'hui? Non, je ne pense pas que ce soit propre à Carrefour. Enfin, on ne va pas prendre le cas de Casino qui est bien pire.
Ah ben non, c'est le distributeur surendetté.
Le problème, c'est la grande distribution. Puis on ne peut pas dire que l'action d'Amazon soit flamboyante en ce moment et elle a beaucoup baissé aussi. Donc est-ce que les investisseurs veulent de la grande distribution aujourd'hui? Ce n'est pas sûr. C'est vrai que la consommation souffre. Ces problèmes d'inflation n'aident pas du tout les distributeurs. Ces problèmes de transition énergétique, de passage au bio, etc. Ah, c'est compliqué pour un distributeur aujourd'hui. C'est pour ça que je répète que la transformation digitale est très importante parce qu'elle va, porter ses fruits. C'est assez long, hein, la transformation digitale. Elle va porter ses fruits d'ici un an ou deux. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est aujourd'hui, sinon tous les distributeurs sont logés à la même enseigne.
C'est l'aspect probablement le plus inattendu de ce qui a été annoncé hier, cet accord entre Carrefour et Publicis pour mener à marche forcée cette... Et j'aime bien effectivement votre idée que Amazon fait partie des concurrents.
Évidemment.
Ouais. Mais Amazon n'a jamais trop réussi dans l'alimentaire, hein, et notamment en France. Et je pense que c'est le gros défi. Je veux dire, Carrefour,
ils
ça fait quand même...
Ils ont essayé avec Monoprix, Amazon.
Oui, Carrefour, ça fait 20 ans hein, qu'ils ont une stratégie dans le digital. Et ils y ont mis beaucoup d'argent et ils ont beaucoup tâtonné, comme beaucoup d'autres secteurs, hein, je veux dire, et comme beaucoup d'autres distributeurs, c'est pas évident. Et dans l'alimentaire, il y a quand même... ça reste compliqué d'avoir un modèle bien établi et bien rentable, donc ça sera et y compris pour Amazon, quoi. Je veux dire qui a une force de frappe très forte.
Richard m'écrit: en France, on accuse l'industrie d'être sale, aux États-Unis, on l'encourage.
On l'encourage pas à être sale.
Non, mais on encourage l'industrie. Et si Donald Trump confirme sa candidature mardi prochain et se retrouve président des États-Unis en 2024, vous assurez que le virage vert de l'Amérique va prendre un coup dans l'aile. Hein. Bon, on verra.
On ne peut pas dire en France qu'on n'encourage pas l'industrie. Hein.
Non, mais genre, justement, tiens, un mot là-dessus, parce qu'après, je voudrais qu'on dise peut-être un mot de la taxe foncière. Oui. Je voulais vous entendre parce que vous êtes un défenseur des ETI très particulier.
Non, je ne suis plus un défenseur des ETI, vous le savez maintenant.
si, vous m'avez
toujours dit. Je veux leur disparition.
Et pour ne pas les distinguer, justement.
Ah oui, d'accord.
J'étais un défenseur des entreprises de taille moyenne, jusqu'à ce que je me rende compte qu'on nous tape dessus à la première occasion. Donc je demande aujourd'hui la suppression du seuil des ETI, qui est absolument absurde.
250 salariés à 5000 salariés.
250 salariés, 50 millions d'euros. Et alors, peut-être que les 250 salariés ont une réalité. Je vous rappelle que depuis la loi Pacte, qui a été votée en 2019, il n'y a plus que trois seuils en France. 11, 50, 30. 250. Ouais. Point final, il y a trois seuils de salariés. Pour être une ETI, il faut avoir plus de 250 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et puis une taille de bilan dont j'ai oublié le chiffre qui importe peu. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était le même chiffre il y a 30 ans. Pourquoi ça n'évolue pas, ça? Pourquoi c'est pas indexé?
C'est sûr que c'est faible.
Pourquoi est-ce qu'on ferait pas des ETI à 150 millions d'euros aujourd'hui? Dans 20 ans, ça sera encore 50 millions, mais tout le monde fera 50 millions, il y aura plus de PME. Ce chiffre est absurde. Ce seuil est absurde. Il est contre-productif. Il est contre-productif. Parce que dans tous les pays du monde, quand vous grossissez, vous devenez une bonne entreprise, vous passez les 250 salariés, vous passez les 50 millions d'euros, on vous dit bravo mon gars, on va t'aider, on va te pousser, tu es la fierté de notre pays. Et en France, qu'est-ce qu'on fait? Vous passez les 250 salariés, vous passez les 50 millions d'euros, vous en avez bavé pour arriver là, c'est compliqué. Et on vous dit, tiens, prends sur la tête, tu vas payer plus de taxes, tu vas pas avoir les mêmes droits que les PME, tu n'auras pas le droit à l'apprentissage dans les mêmes conditions que les autres. C'est-à-dire que, à chaque moment, on vous bastonne pour vous empêcher de grossir. Alors, que font les gens? Ben, les PME, ils s'arrêtent à 49, les ETI, ils s'arrêtent à 249, et puis ils font deux boîtes plutôt qu'une. Voilà. Et c'est compliqué, ça ajoute des coûts, ça ajoute des complications. Ce seuil des ETI est absurde, donc je milite aujourd'hui pour la disparition des ETI. On aura des PME, on aura des grands groupes, le seuil sera très haut à 5000 employés, ou finalement, bah, que vous soyez à 4000 ou 5000, ça change pas grand-chose. Ce seuil des ETI, je demande sa disparition aujourd'hui, il ne sert à rien, c'est contre-productif pour l'industrie française, c'est contre-productif pour le commerce français. On n'y gagne rien. On n'y gagne rien, ni l'État, ni nous. Donc, je milite aujourd'hui, officiellement, pour la disparition des ETI.
J'entends l'appel. Bah, du coup, parce que vous me disiez, il y a quelques temps, on oublie les ETI. J'ai entendu le mot ETI dans le bouclier tarifaire pour les entreprises.
On n'y a pas droit, c'est pareil.
Si, vous avez le guichet.
Elles y sont, mais il
3 faut milliards toujours, d'euros pour toutes les...
Il faut toujours avoir, il faut que votre électricité, votre énergie représente 3% de votre chiffre d'affaires, ce qui est quand même un truc assez énorme.
C'est énorme.
Oui, 3% du chiffre d'affaires, c'est beaucoup.
Pour une ETI industrielle,
Tout dépend des ETI, évidemment. Oui. Pour une ETI industrielle qui est énergivore, ça va être le cas. Mais encore une fois, on fait en sorte que ces mesures ne s'appliquent pas à tout le monde. Et donc, il faut être du bon côté de la barre. Et les ETI sont souvent du mauvais côté de la barre.
Je rappelle que vous nous aviez donné la facture énergétique de Cousmi 2023.
C'est même pas de Cousmi, c'est les boutiques Cousmi. Mais 80 boutiques, je passe de 180 000 euros à 680 000 euros en 2023.
Ce qui est un peu dans les 3%, enfin, c'est vrai que ça paraît assez important, mais ce qui pose aussi problème, c'est ceux qui ont fait des efforts justement pour faire des économies d'énergie.
Absolument.
Et qui se retrouvent en dessous des 3% parce qu'ils ont fait des économies d'énergie.
C'est tous ces trucs créent des seuils.
Donc, il y a
mais ces seuils, c'est toujours ces seuils qui sont.
Oui, mais en même temps,
c'est compliqué.
On ne peut pas aider tout le monde non plus.
Voilà. Mesure ciblée. Mais c'est vrai que le gars qui a fait des efforts, il n'est pas éligible. Celui qui n'a rien fait.
C'est toujours compliqué. Soit on ne cible pas assez, soit on cible. Et dans ce cas-là, il y a évidemment des effets de seuil.
Enfin, juste pour un mot sur les ETI, c'est vrai qu'il y a quand même ce diagnostic qu'en France, on manque d'ETI, notamment pour les performances à l'export. C'est-à-dire qu'effectivement, la problématique de la France, c'est de faire grossir les boîtes. Arriver à une taille critique qui permet d'exporter.
On ne les encourage pas.
Quand on parle du Mittelstand allemand, des choses c'est effectivement, il est basé beaucoup sur les ETI, ce qui est une problématique française. C'est essayer de faire justement, on a des grandes multinationales qui sont très puissantes, on a beaucoup un tissu de PME important, on a du mal à arriver à trouver des ETI qui grossissent et qui sont performantes.
2 minutes 50, la taxe foncière. Alors, Anne Hidalgo a mis les pieds dans le plat et elle est arrivée à la mairie de Paris en disant qu'elle n'augmenterait pas les impôts et qu'elle tenait parole. Bon, on pense ce qu'on veut. Aujourd'hui, elle annonce que la taxe foncière va prendre 50% à Paris. Alors, c'est vrai qu'à Paris, elle n'est pas très élevée. Enfin, le prix du logement, lui, est très, très élevé. Et on se rend compte que cette tentation d'aller chercher un levier fiscal avec la taxe foncière existe dans bien des municipalités, notamment depuis la disparition de la taxe d'habitation. Et je pose la question, Gaël, on n'a pas beaucoup de temps, juste une réaction, mais est-ce que ça ne va pas devenir le symbole de la pression fiscale et finalement des hausses d'impôts même si Bruno Le Maire continue à dire que les impôts ne monteront pas, on voit bien qu'il y a un moment, il faudra payer.
Oui, probablement.
Et un euro de taxe foncière ou un euro d'hier, c'est un euro.
On se plaint du bouclier tarifaire énergétique pour les entreprises, qui est peut-être insuffisant par rapport... Mais bon, le bouclier tarifaire pour les collectivités locales, c'est 2 milliards jusqu'à présent qu'a donné l'État pour les collectivités locales. Il y a des collectivités locales qui sont confrontées à des flambées de factures énergétiques de cet ordre, c'est-à-dire x5, x6, voilà. Donc, et par ailleurs, l'État a eu beau jeu dans ses baisses baisses d'impôts ces dernières années, en fait, de baisser les impôts qui sont perçus par les collectivités locales.
C'est vrai,
c'est
aussi
le cas de la taxe d'habitation, ah oui, et c'est le cas des impôts de production. On sait trop peu que ce sont en fait des impôts économiques locaux. Donc, et par ailleurs, on arrive à une sorte de bascule du marché de l'immobilier aussi. Il y a une recette qui est liée aux transactions immobilières, hein, qui est très très importante pour une ville comme Paris, par exemple.
C'est énorme en France.
Qui a bénéficié vraiment du boom de l'immobilier. Paris, on a compris que la bascule de l'immobilier, elle se passe d'abord à Paris. Hein, et elle va globalement se passer puisque les taux d'intérêt sont plus élevés maintenant, donc c'est plus difficile d'obtenir un prêt immobilier, etc. Donc elles ont un problème budgétaire majeur. Beaucoup de collectivités locales ont un problème majeur budgétaire.
50 secondes, Mathieu, si vous voulez rajouter quelque chose.
Alors il y a déjà. Alors ça peut être un peu la double peine pour certains ménages parce qu'on voit déjà un choc sur le pouvoir d'achat, la hausse des prélèvements à travers la taxe foncière. Ce que dit Gaël est juste, hein, c'est qu'il y a un transfert de fiscalité aussi. C'est-à-dire qu'on a réduit les impôts, un certain nombre d'impôts locaux, la taxe d'habitation, l'impôt sur production. Il faut que les collectivités locales retrouvent des ressources fiscales. Si elles ont des dépenses qui augmentent aussi avec l'indice de la fonction publique, les charges d'intérêt qui augmentent avec la hausse de taux, notamment, les dépenses énergétiques.
Oui.
Donc tout ça pour boucler, et sachant que les collectivités locales ont une contrainte budgétaire, ce qui n'est pas le cas de l'État, hein. C'est-à-dire qu'elle doit être à l'équilibre, hors dépenses d'investissement, ce qui va poser beaucoup de problèmes pour un certain nombre de collectivités.
Et effectivement, comme on avait vu la taxe, la taxe professionnelle se recycler en nouveaux impôts de production qui n'avaient jamais disparu, on se rend compte que c'est vraiment Lavoisier, la fiscalité. Hein. Rien ne se perd, tout se transforme, hein. C'est extraordinaire. Alors, il n'y a rien de secret non plus chez Lavoisier, mais là, ça
et puis les collectivités locales n'aiment pas être de plus en plus dans la main de l'État, puisque maintenant, elles vont dépendre de plus en plus des dotations.
C'est leur dernier levier fiscal.
Chaque année, augmente, baisse, enfin voilà. Et donc, c'est un moyen pour l'État de recentraliser quand même. Hein.
Merci à tous d'avoir été là. Donc, Sylvain Rébi aujourd'hui, Gaël Mac pour Challenge avec les États-Unis à la une du numéro de demain, en kiosque, et Mathieu Plane à demain 9h.